Vous êtes sur RTL.
Est elle aussi tombée en panne. Conséquence, en attendant, la dépanneuse de la dépanneuse s'est bouchée sur presque 10 km en amont. Actuellement, il faut compter presque une heure entre Nice-Est et Antibes. Le trafic est très chargé, soyez patients.
Ah oui, quand la dépanneuse de la dépanneuse tombe en panne, effectivement, c'est pas gagné. Soyez patients. Évidemment, Pierre Collat, vous restez avec nous tout au long de ce RTL soir. Après le journal et l'invité, le plateau télé de Laurent Marsic, très chaud ce soir. À 18h30, ils ont fait l'année avec ce soir le portrait de celui qui a douché les espoirs républicains aux européennes, François-Xavier Bellamy. Ensuite, votre rendez-vous du mois d'août, il était une marque avec ce soir Mickey, élevé au bon beurre d'Isigny. À 19h, la deuxième édition du journal, puis la tête dans les étoiles avec les Chinois dans l'espace. Et ensuite, évidemment, nous refons le monde. Valérie Quintin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Après les orages, retour au calme demain?
Oui, demain et ce soir, on a encore des orages. 26 départements restent en vigilance, ça va de la Haute-Garonne jusqu'aux frontières du Nord et c'est précisément vers le Nord-Est qu'on a des orages assez forts ce soir, ça va durer encore quelques heures. Demain, effectivement, retour au calme avec encore quelques pluies orageuses dans l'Est en matinée, mais pas grand-chose. Un ciel variable partout ailleurs, plus de soleil près de la Méditerranée. C'est un temps qui va se confirmer demain un petit peu partout l'après-midi. Des éclaircies, mais attention, il y aura du vent sur la moitié nord, des vents moyens entre 50 et 70 km/h en pointe. Les températures, 14 à 23 au réveil entre Aurillac et Perpignan, 20 à 36 en journée avec 23 degrés à Granville, 27 à Paris et Tulle, 30 à Grenoble et 36 degrés au Lyon. C'est dans le Var.
Merci Valérie.
RTL soir.
Valérie qui évoque donc des orages encore dimanche. De quoi inquiéter un petit peu plus les agriculteurs?
Et en particulier les maraîchers dans la Loire avec les pluies diluviennes d'il y a trois jours. Certains arboriculteurs ont tout perdu de leur production, que ce soit les pêches, les abricots et les raisins. Un désastre pour David Tambouzeau. Après 25 ans de métier, il ne pourra pas vendre de fruits en gros. Cette année, c'est la première fois qu'il voit ça. Écoutez-le.
Quand on voit l'état des arbres, ça fait de la peine. Je sais à peu près ce que c'est la grêle, quoi. Mais on n'a jamais vu comme ça, quoi. Toutes les parcelles ont été touchées par la grêle, quoi. Les cerises tardives, et après ça a suivi un petit peu l'abricot, et puis après ben la pêche, et puis un peu la pomme, quoi. Donc perte du chiffre d'affaires pour la première année, comme j'avais des investissements. Pendant deux ans, il y aura pratiquement pas de fruits sur les jeunes arbres, quoi. Voilà. Maintenant que les arbres ils sont grêlés, pour les faire repartir, on va retourner arroser dès qu'il fera sec, pour pas que l'arbre soit affaibli et qu'il reparte l'année prochaine, quoi. Il n'y a plus d'assurance qui nous assure pour la grêle. Ce que vous donnez en assurance, c'est l'assurance qui vous le redonne en grêle. Donc on va attendre l'année prochaine pour repartir de pied ferme. Je suis optimiste, donc heureusement, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi.
Témoignage recueilli par Nerissa Emani à Chagnon, dans la Loire, pour RTL.
En Espagne, à Benidorm, 3 des 5 jeunes Français accusés de viol collectif sont en détention provisoire.
Ils avaient très vite été interpellés après la soirée au cours de laquelle ils auraient abusé d'une jeune touriste norvégienne chez eux et après l'avoir contactée sur les réseaux sociaux. Finalement, Alice Moreno, ils ont été mis en examen pour abus sexuels.
Exactement, les faits dénoncés ont été requalifiés par le magistrat instructeur. À l'issue des déclarations de chacun, il a retenu l'abus sexuel et non le viol. 3 des jeunes hommes sont toutefois maintenus en détention provisoire à Alicante, tandis que les deux autres sont placés sous contrôle judiciaire, doivent se tenir à disposition de la justice espagnole. Pas question pour eux de rentrer en France pour l'instant. Tous nient avoir abusé de la jeune Norvégienne. Certains reconnaissent un rapport sexuel consenti. Maître Frédéric David défend l'un d'eux.
Il est dans une situation d'incompréhension. Il a crié à la barre son innocence, ne comprenant pas, parce que lorsque nous entendons la jeune fille dire que finalement c'est un rapport individuel et que le juge lui dit « mais selon vous-même c'est un rapport consenti » qu'elle dit « je ne m'en souviens pas ». On parlait initialement de viol collectif, de horde sauvage, de sauvageons, etc. Ce ne sont pas des sauvageons, ce sont des gamins, quoi.
Pourtant, dans ses dépositions à la Guardia Civile, la jeune Norvégienne évoque bien un viol. Après avoir pris contact avec les Français via un réseau social, elle s'est présentée chez eux, accompagnée d'une amie. Les 5 jeunes hommes les auraient alors séparés de force. L'une serait parvenue à s'enfuir, l'autre, séquestrée dans une chambre, aurait été violée.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Beaucoup d'émotions ce matin aux obsèques du maire de Signes, dans le Var, en présence de la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et du président du Sénat, Gérard Larcher, Emmanuel Macron avait adressé un message qui a été lu par la ministre, dans lequel il rend hommage au maire et promet la fermeté pour condamner les incivilités et la dégradation du sens de l'État.
La fille d'Alain Delon se veut donc rassurante sur l'état de santé de son père.
Oui, sur son compte Instagram, Anouchka donne des nouvelles de la star. Il a été victime d'un AVC et d'une hémorragie cérébrale, mais il a eu beaucoup de chance, tout s'est bien passé, crie-t-elle, ajoutant que l'acteur pense déjà à ses futurs projets. Delon est actuellement dans une clinique en Suisse. Il a quitté son domicile de Douchy, dans le Loiret, où il vit une grande partie de l'année, depuis 50 ans. Les habitants sont inquiets pour leur voisin de marque. Sur place pour RTL, Christian Panvert.
Oui, la santé d'Alain Delon préoccupe beaucoup les habitants de Douchy. Josette et sa sœur Véronique ont appris sur RTL ce matin son hospitalisation. Elles sont inquiètes.
Il faut qu'il revienne en forme comme d'habitude, quoi.
Il fait partie vraiment du village.
Ah oui, il a eu la grande époque où il était avec Mireille Dard. Il venait au village comme Pierre-Paul Jacques, quoi. Il fait pas « moi, je m'appelle Delon », quoi. C'est vraiment quelqu'un de charmant, vraiment, super.
Laurence a souvent croisé le monstre sacré sur le terrain de foot de la commune le dimanche matin, où il vient parfois encourager les jeunes. Elle aimerait le revoir vite.
Je ne dirais pas bats-toi parce que j'oserais même pas le tutoyer, tellement que j'ai de respect. Battez-vous. Un acteur, ça se fait pas comme ça. Il faut qu'on puisse l'adorer. Il a tout fait pour.
À l'auberge du terroir, il a sa table réservée. Claude, l'un des co-gérants.
Qu'il revienne dès que possible. Beaucoup de clients le connaissent, beaucoup de gens viennent spécifiquement pour essayer de tomber dessus. Alors après, il faut essayer d'organiser pour que ça se passe pas trop mal, quoi.
Les autographes, il aime pas trop ça.
Comme il me dit, me fais pas chier.
Mais à chaque fois, Alain Delon joue le jeu, pose pour les selfies et fait volontiers le baise-main aux dames.
Christian Panvert dans le Loiret pour RTL. Aujourd'hui, ça fait juste 37 ans qu'avait lieu l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, dans le quartier juif. Un attentat dans lequel 6 personnes avaient été tuées et 22 blessées. On apprend qu'un ancien chef des renseignements français a dû s'expliquer devant la justice concernant un marché non écrit qu'il avait passé avec le groupe palestinien à l'origine de l'attentat. Des proches des victimes réclament la levée du secret défense.
Allez, on y reviendra évidemment tout à l'heure dans On refait le monde. Une pause et puis dans un instant on file en Italie. L'Italie secouée par une crise politique en plein été avec le coup d'éclat de Salvini. À tout de suite.
RTL Soir, 18h09.
RTL Soir.
RTL Soir, 18h11, Vincent Parisot et la suite du journal de Marielle Fournier.
Et donc Marielle, en Italie, la confusion avec cette nouvelle crise gouvernementale.
Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, fait voler en éclats la coalition avec le mouvement 5 étoiles qui persiste à s'opposer au TGV Lyon-Turin. Salvini et son parti d'extrême droite sont maintenant en position de force à ne le nier pour s'imposer dans les urnes.
L'homme fort de l'Italie, dont le parti d'extrême droite est crédité de 39% des intentions de vote, a saisi le bon prétexte pour faire dérailler le gouvernement. Une motion du mouvement 5 étoiles contre le chantier Lyon-Turin, qui a d'ailleurs été rejetée par le Sénat. Mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Salvini s'en est expliqué hier soir lors de son premier meeting de campagne électorale dans une station balnéaire des Abruzzes.
Je ne supporte plus les non. Non à ceci, non à cela. Il faut agir. On n'a pas besoin de ministres qui bloquent les chantiers publics. Et donc, redonnons la parole aux Italiens.
Le chef de la Ligue, qui est parvenu à écraser de tout son poids ses alliés 5 étoiles, réclame donc des élections anticipées. Mais le calendrier institutionnel est encore flou. Le Parlement ne pourra être dissous qu'après un débat au Sénat et le vote d'une motion de censure qui devrait se tenir après le 15 août.
Anonyme, la correspondante d'RTL à Rome.
Le pape a d'ailleurs réagi à cette actualité politique dans un entretien à la Stampa. Le pape François s'est dit inquiet devant la montée des populismes, estimant que l'attitude de fermeture mène à la guerre. Le Saint-Père rapproche même le discours populiste à celui d'Hitler en 1934. Et puis, les nouvelles frictions entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Dans un tweet, le président des États-Unis avait rappelé à l'ordre le chef de l'État français pour qu'il ne parle pas en son nom sur le dossier iranien. Réponse ce soir de la diplomatie française. La France n'a besoin d'aucune autorisation pour s'exprimer sur l'Iran. Dixit Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.
C'est aujourd'hui le début du pèlerinage de la Mecque.
Les autorités saoudiennes attendent 2 millions de pèlerins. Aller prier à la Mecque, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Tout musulman doit s'y rendre un jour. Et du coup, certaines agences de voyage profitent de l'aubaine et proposent à leurs clients un séjour clé en main à des tarifs avoisinant payant les 2000 euros par personne, voire plus. Mais voilà, une fois le voyage payé, certains découvrent qu'ils n'ont pas de visa pour l'Arabie Saoudite. Benjamin Boukrich, vous avez rencontré l'un de ses fidèles qui se retrouve sur le carreau.
Depuis un an, Ahmed et Sophia planifiaient leur pèlerinage, mais à la dernière minute...
On nous dit qu'on ne pourra pas partir pour faute de visa.
Le couple avait réservé un séjour auprès d'une agence de voyage non agréée par le gouvernement saoudien, qui a donc refusé leur venue.
Ça a été un coup de massue. J'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à manger. C'était un stress mais total, j'étais anxieuse, j'étais pas bien du tout, quoi. Donc ça a été très très dur pour nous.
Ils ont payé plus de 10 000 euros, une somme qu'ils n'ont pas encore récupérée. Ahmed est désabusé.
C'est vraiment indigne. Il y a eu vraiment, vraiment une gestion calamiteuse, en fait. Cette agence, je pense pas qu'elle refera le pèlerinage l'année prochaine. S'ils le font, il faut vraiment qu'ils changent en profondeur leur méthode.
Faire changer les méthodes, c'est l'objectif d'Omar Dakir, de l'association ASEF, qui lutte contre ces arnaques.
Tous les ans, c'est des centaines de victimes. Mais cette année, c'est pas un fléau, c'est l'hécatombe. Cette année, c'est des milliers de victimes. Et à un moment donné, oh, ça peut plus durer. Dans le domaine du pèlerinage à la Mecque, il n'y a aucun contrôle. C'est l'anarchie, c'est la jungle.
Pour réguler ce secteur, il a envoyé en mars une lettre de 25 pages au président de la République. Pour l'instant, sans réponse.
Benjamin Boukrich pour RTL.
Allez, on en arrive au football parce que dans un peu moins de 3 heures, eh bien, ce sera le coup d'envoi de la Ligue 1.
Et en ouverture, Monaco-Lyon au stade Louis II. Les Parisiens archi-favoris joueront dimanche avec ou sans Neymar, le Brésilien qui a appris en début d'après-midi que son affaire de viol était classée. La juge brésilienne a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour poursuivre le joueur. En revanche, une nouvelle plainte, et cette fois en France, vise l'attaquant d'après l'équipe. Et ça fait suite à la finale de la Coupe de France contre Rennes, à l'issue de laquelle Neymar avait répondu à une injure par une claque. Alors pour en revenir quand même au foot, cette saison, on va parler vraiment foot. Avant de parler tactique et résultats, il y a quelques chiffres à retenir, Quentin Vasselin, à commencer par le budget des clubs.
Oui, et sans surprise, le plus gros budget, c'est le PSG avec 637 millions d'euros. Loin, très loin devant Nîmes, 20e et bon dernier de la classe avec seulement 27 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins que les 36,8 millions de salaires annuels que touche Neymar, qui est le joueur évidemment le mieux payé du championnat, car oui, il est toujours là, Neymar. Et au total, 5 clubs ont un budget inférieur à la star brésilienne. Un mot aussi sur Loïc Perrin, le capitaine de Saint-Etienne va entamer sa 15e saison consécutive en Ligue 1, un record.
Mais il n'est pas le joueur le plus capé, hein, parce qu'il y en a un qui a disputé encore plus de matchs, c'est
oui,
ça?
Oui, oui, il s'agit de Florent Balmont, l'inépuisable milieu de terrain de Dijon, 39 ans, et c'est 502 matchs au compteur. Et un autre joueur, hein, fait de la résistance, il s'agit de Vitorino Hilton, 41 ans et capitaine de Montpellier. Il est le plus vieux acteur en Ligue 1 en activité. Et chez les entraîneurs, c'est le dernier arrivé qui est le plus expérimenté, le Nantais Christian Gourcuff, 432 rencontres dirigées depuis le début de sa carrière. Et on surveillera aussi les petits nouveaux, Lucas Elsner à Amiens, le Messin Vincent Ognon, mais surtout André Villas-Boas à Marseille, et Silvinho à Lyon. Ce dernier va découvrir le championnat dès ce soir. Et la Ligue 1, c'est aussi et surtout une femme. Son nom, Stéphanie Frappard. Elle va devenir à 35 ans la première femme à être titulaire dans l'élite. On l'avait vu au sifflet déjà l'an dernier sur 2 matchs et surtout pendant la finale du Mondial féminin. On lui souhaite bonne chance.
Merci Quentin Vasselin pour RTL. Plein de statistiques comme ça.
Oui, et je sais que vous êtes très pressé que ça commence, hein, cette nouvelle saison de Ligue 1, Marielle Fourmier.
Vous me donnez une réputation incroyable, mon cher Vincent. Vous savez que j'aime bien le foot en plus.
Mais je sais, mais c'est pour ça. Et que même vous êtes une grande supportrice de l'OGC Nice.
Je me méfie un peu de vous quand même.
Et donc on poursuit le match dans un instant avec l'invité d'RTL Soir, le patron de la Ligue de football professionnel. Parce que pour lui, comme pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters, c'est la rentrée, il sera donc avec nous dans un instant. Merci Marielle, vous revenez à 18h30.
Tout à l'heure.
RTL, 18h17.
RTL Soir.